Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Au-delà des apparences, qui donne la parole aux invisibles, qui valorise les plus dénigrés de notre société, les plus sujets à nos racismes ordinaires, l'émission qui va regarder l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, on est plusieurs à l'avoir découvert pendant le Covid aussi. C'est la première fois, par exemple, que Nathanaël Vigneault, mon invité, président de Rencontrons-nous, entre autres, et moi-même avons mis le pied dans le bidonville de la Flambère. Ça a vraiment été une occasion, quoi. Le Covid, les colis alimentaires, la nécessité absolue de se rapprocher de personnes qui étaient confinées, qui ne pouvaient plus sortir, ni mendier, ni ferrailler, ni faire quoi que ce soit, et à qui, finalement, il a fallu apporter des colis alimentaires au départ. Ça, c'est la genèse.
Alors, non, petite précision pour moi, j'étais sur le bidonville avant le Covid.
D'accord.
C'est la première fois, par contre, qu'on a investi autant le champ de l'école. Mais moi, je suis sur le bidonville, le terrain de la Flambère, depuis 2013. Donc bien avant le Covid.
Ah d'accord, ok, pardon. Et c'est ça qui vous a permis finalement, quelque part, de non seulement de rentrer, c'est vous qui avez été le sésame ouvre-toi, hein, parce que c'était pas gagné au départ, hein, c'était quand même assez compliqué cette période-là. Et c'est aussi ce qui, quelque part, vous a permis de fracturer l'Algeco, qui était dédié à l'aide sociale qui avait fui, hein, on peut le dire comme ça, qui avait fui parce que pendant le Covid, tout le monde fuyait, hein, faut quand même s'en rappeler, on n'était plus très nombreux sur le terrain, hein, ça c'est clair. Et du coup, bah, l'histoire de l'Algeco, elle est quand même assez formidable, quoi. Parce que l'histoire de l'Algeco, c'est un pari fou, mais pas fou du tout, en fait. C'était le ministre Jean-Michel Blanquer d'Éducation nationale qui dit « continuité scolaire ». Et vous, moi, ma fille, deux étudiantes en santé, et pourquoi on ne ferait pas du soutien scolaire? Pourquoi on ne ferait pas du soutien scolaire? Et immédiatement, cet Algeco qui était fermé, bah, s'est ouvert et il n'a plus jamais des amplis, en fait. Et après, je vous laisse la parole, évidemment.
Oui, c'est vrai que le Covid a été, sur la question de l'école, une période, un tournant, puisque l'association qui intervient depuis 2013 n'avait pas de projet scolaire. Et on s'est retrouvé à gérer la crise sanitaire au printemps 2020. Donc aujourd'hui, le Covid, ça dit peut-être plus rien, mais à l'époque, c'était, tout le monde en avait peur, il fallait tout mettre en quarantaine, tout le monde avait vraiment très très peur du Covid. Donc ceux qui étaient sur le terrain, ce que tu disais, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et les jeunes de l'époque...
Même les associations.
Il y a des associations. Et pourtant, les jeunes, donc, et notamment André à l'époque, ont accepté tout de suite d'être solidaires.
Donc, ils ont été les médiateurs avant l'heure. Ils n'avaient pas la casquette, mais ils l'étaient.
Exactement. Ils ont été là où les travailleurs sociaux ou pas mal de gens ont déserté. Lui était là. Il a accepté de prendre tous les risques à l'époque pour gérer donc au début l'aide alimentaire, puis s'assurer que tout allait bien au niveau sanitaire et très vite effectivement de mettre en place la continuité pédagogique.
Mais juste avant, peut-être, je vous coupe cette idée d'aide alimentaire. Il n'y aurait pas eu ces jeunes qui parlaient la langue et qui était l'interface naturelle, j'irais, parce qu'il n'y avait encore aucune structure, il n'y avait rien du tout. Il y avait toi, évidemment, qui étais arrivé avec ton association, mais qui a fait l'interface avec les travailleurs sociaux qui étaient encore sur le terrain, et qui venaient, parce que ça a été quand même la foire d'empoigne, hein, de mettre en place cette aide alimentaire. Ils ont fait ce travail, évidemment, totalement bénévolement, de médiateurs, de traducteurs, et c'est ça qui a démarré un peu toute la suite, en fait.
Bien sûr.
Sinon, tout le monde était bloqué, les administrations, la préfecture, les associations, tout le monde s'arrêtait. Et on ne pouvait pas s'arrêter. Les gens, il fallait bien qu'ils mangent, il fallait bien qu'ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, quoi.
Ah oui, le travail social n'a jamais autant d'importance qu'à cette période-là. Voilà. Et c'est pour ça que c'est un tournant, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que André avait la casquette pour, et les épaules pour être travailleur social.
Et manager des jeunes.
Moi, j'aime pas ce mot, manager.
Ah, en tout cas,
pour accompagner les jeunes.
Moi, je l'ai vu diriger, entre guillemets, t'aimes pas non plus ce mot-là, peut-être, mais moi, ça m'est égal.
Non. Ça veut dire la même chose.
Parce que quand il y avait les fils énormes et qu'il fallait quand même dire au vieux de la vieille, quand on est jeune, non, toi, t'es déjà passé, tu vas pas m'arnaquer, tu vas au bout, ceci. Il fallait quand même du tempérament.
Et il l'a toujours. Et donc cette période du Covid a coïncidé avec la création de postes de médiateur scolaire par la DIAL, donc qui est la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement. pour développer de la médiation scolaire sur les bidonvilles et les habitats précaires. Donc on a fait un dossier pour accompagner les 40 enfants du bidonville de la Flambert. Et on a été retenu, et donc on a une subvention aujourd'hui de l'État pour un projet scolaire. Donc là, on n'avait pas de projet scolaire. L'association s'est dotée d'un projet d'accompagnement scolaire pour accompagner et scolariser tous les enfants du bidonville vers l'école. Mmh. Et donc Andrei, qui était animateur salarié depuis 3 mois en temps partiel très très précaire, est devenu médiateur scolaire. Donc aujourd'hui, il est toujours médiateur scolaire avec la mission d'accompagner tous les enfants et leurs familles à l'école. Vers l'école.
Alors les étapes ont été un peu brûlées parce qu'au départ, quand même, toute cette complexité d'amener des enfants, vous les avez amenés par le plaisir, pareil, par le goût. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui se relayaient chaque semaine pour accueillir des jeunes enfants dans cet Algéco déserté. Et vous avez transmis, parce qu'il y avait des tas de profs complètement démunis, des tas d'instituteurs qui voulaient faire passer cette continuité scolaire et puis les devoirs, mais sans truchement, c'était pas possible. Ça se traînait dans les caravanes, il y avait aucun moyen de les ranger. On marchait dessus, en fait, dans la gadoue. Là, il y a eu une petite structure très, très vite avec des jeunes qui étaient absolument, mais assoiffés d'apprendre. En fait, c'est pas des colis alimentaires dont ils avaient besoin, ces enfants-là. Je parle des enfants. Hein. Ils avaient besoin d'apprendre, ils avaient besoin de faire des multiplications. Ils s'arrachaient les étudiants, ils se battaient pour rentrer, il fallait bloquer la porte. Enfin, il y a une soif quand même énorme de comprendre, d'apprendre et de développer son propre intellect.
Exactement, et y compris pour des enfants qui n'étaient pas scolarisés à l'époque.
C'est ça.
Donc il y a eu c'est pour ça que c'était un révélateur. C'est qu'on savait sur le terrain que tous les enfants n'étaient pas scolarisés. Mais personne n'avait idée, personne ne savait quantifier. Là, le Covid, ça a permis de mettre des chiffres, mettre des objectifs sur la situation. Et ça a été notre point de départ, notre projet de médiation scolaire, tel qu'on l'a présenté pour le poste de médiateur scolaire.
Et ensuite, il y a eu quand même un sacré parcours du combattant, hein, que vous avez frappé vous-même aux portes à l'heure où il fallait se réveiller. Parce qu'il fallait réveiller tout le monde dans tout le camp. Je vous vois encore en train de frapper à toutes les caravanes pour qu'ils soient à l'heure à l'école. Parce qu'être à l'heure, c'était déjà un pari énorme, hein. Que les parents comprennent, que les enfants se lèvent, qu'ils se réveillent alors qu'ils étaient couchés très très tard, qu'ils dorment souvent à je ne sais combien dans le même lit, que les conditions, bah, comme on dit, sont toujours aussi complexes. Mais ça finit par se déclencher et se discipliner, je dirais.
Oui, et encore une fois, parce qu'on s'accorde le temps d'eux, et on dit, et c'est la difficulté qu'on a par exemple avec les partenaires publics, et aussi avec certaines écoles.
C'est la difficulté qu'on a avec les partenaires publics, vous dites ?
Oui, ou avec les institutions, tout ne se résout pas d'une baguette magique, il faut du temps. Alors l'école est un sujet, nous, sur le bidonville de la Flambert, qui fait consensus. Il n'y a pas de difficulté majeure pour scolariser les enfants.
Sur ce bidonville-là, sur ce bidonville, mais sur les autres.
Oui, mais j'ai envie de dire que c'est un cliché quand on dit les Roms ne veulent pas aller à l'école, par exemple.
C'est sûr.
C'est pas les Roms, c'est pas culturel. Ça renvoie pas à des considérations culturelles. Par contre, quand on creuse les conditions de vie, leur précarité au quotidien, là, il y a des explications à aller chercher. Et je rappelle aussi que sur les bidonvilles, il n'y a pas que des Roms qui habitent. Et du coup, les difficultés d'accès à l'école sont tout aussi identiques. Mais sur la question de la Flambert, sur le sujet de la Flambert, effectivement, à la rentrée 2020, on a inscrit tous les enfants, ceux qui n'étaient jamais allés à l'école, il a fallu aller taper aux portes parce que c'était pas simple de se réveiller à 7h pour être à 8h à l'école. Mais aujourd'hui, en fait, on ne va plus taper aux portes parce que maintenant, c'est devenu automatique. Et moi, je ne dis pas qu'ils sont à l'heure tous les matins et tout est parfait parce que le temps est encore nécessaire. Mais c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça n'était il y a 3 ans.
Avec un soutien indéfectible de certains directeurs d'école, directrices d'ailleurs souvent, d'école.
Ouais.
Ça, vous pouvez le dire. Et qui croient dur comme fer et qui ont sauté sur l'occasion de pouvoir justement accrocher et faire tenir ce lien très très fort avec l'éducation nationale.
Ah bah, tout ça ne marche que parce que c'est un travail collectif. Donc il y a l'association, il y a les enfants, il y a les parents et il y a l'éducation nationale. Il y a les directions, donc les directrices, parce que nous c'est que des femmes.
Des femmes valeureuses, hein, on peut
valeureuses,
dire. Hein,
ouais.
Valeureuses.
Et des enseignantes.
Ouais.
Et c'est des équipes pédagogiques qui sont très très investies, très très impliquées, qui viennent régulièrement sur le terrain à la rencontre des familles. Donc c'est des choses qui sont, là encore, loin des clichés quand on dit que l'éducation nationale ne fait rien. Non, en fait, sur le terrain, elles sont très, très, très engagées et elles font malheureusement avec ce qu'elles ont et ce qu'elles peuvent. Mais en tout cas, on arrive à faire des choses extraordinaires avec elle parce qu'il y a des partenariats qui s'inscrivent et qui s'ancrent dans la durée. Et ça, c'est très précieux.
Le recteur est venu sur le bidonville. Il a découvert une facette de la France. Il a découvert une facette de la vie des jeunes qu'il a dans son académie, qui l'a quand même très fortement impressionné, en fait. Hein.
Oui. Et oui, parce que là, on parle quand même souvent d'un angle mort de la République. Et c'est difficile de quantifier le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont en situation de précarité. Mais ce n'est peut-être pas la grande majorité, mais ils sont là, ils existent. Et c'est des enfants de la République, donc il faut les accompagner vers l'école.
Ça a été l'écueil majeur de mon rapport gouvernemental sur faciliter l'accès à l'école pour les enfants d'habitat précaire. C'était de quantifier en France le nombre d'enfants qui ne vont toujours pas à l'école, qui est obligatoire, quel que soit le statut des parents, quel que soit le statut en France. Ça a été une des plus grandes problématiques, en fait, même si...
Oui. Et là, je salue d'ailleurs l'initiative d'Éric Pélisson, qui est le commissaire régional à la lutte contre la pauvreté en Occitanie, donc qui est auprès du préfet, qui a du coup lancé depuis quelques mois un recensement, justement pour savoir dans l'agglomération toulousaine combien d'enfants ne sont pas scolarisés.
Ce sous-préfet avance à pas de géant et fait avancer la cause à pas de géant.
Oui.
En son honneur, on lui propose peut-être une petite musique de Goran Bregovic, qui va rappeler à tout le monde le film de Costa Rica, hein, Le Temps des Gitans. Donc Ederlési. Acquis, c'est vrai, tout est fragile, ok, mais vous avez des résultats hyper tangibles en matière d'éducation.
Et oui, encore une fois, avec le temps, en se donnant le temps, trois ans après, on a 80% des enfants qui sont assidus à l'école. Alors c'est pas parfait, tout n'est pas rose, il y a toujours de l'absentéisme, il y a toujours des cas problématiques, mais quand même la tendance est quand même très positive et encourageante. On a des collégiens qui se projettent avec un projet professionnel, qui se projettent après le collège, donc ils s'imaginent une suite après 16 ans. Voilà, scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais on peut continuer, ils s'imaginent continuer.
Et encore dans une d'autres fois, métiers qui ne sont pas forcément ceux de leurs parents, donc faire ailleurs,
exactement.
Ceci, cela, c'est ça qui est très important aussi.
Donc là, en fait, on casse la reproduction sociale, on cherche à casser la pauvreté. Et en fait, nous, on dit souvent qu'on n'est pas là pour lutter contre la pauvreté, mais on est là pour produire de la richesse chez les jeunes.
Et magnifique,
en fait,
ça
Et en fait, on leur ouvre des portes. On ne va pas choisir pour eux tel ou tel secteur, parce qu'on ne va pas dénigrer tel ou tel secteur, mais on veut donner aux jeunes la possibilité de choisir leur vie et leur destin. Et que ce soit tant sur les projets culturels que sur les projets éducatifs, en fait, ils ont la possibilité de choisir leur voie. Et je trouve que c'est très beau de pouvoir choisir sa vie.
Voilà. À condition qu'on les accompagne. Parce que là encore, la case départ est tellement complexe. Un petit exemple à Atlanta, Atlanta 1, Atlanta 2, Atlanta 3, ce bidonville est éternellement expulsé, où on voit, si on est attentif, des jeunes filles qui vivent dans des cloaques, mais qui partent, et une fois qu'elles ont franchi la barrière du bidonville, elles viennent se fondre parmi les collégiens, et là, plus personne ne reconnaît personne. Personne ne saura jamais qu'elles sortent d'un bidonville. Et elles veulent réussir et elles avancent. Alors, je parle plus des filles, malheureusement, que des garçons, souvent. Ça, c'est vrai. Mais cette réussite-là, il faut l'accompagner pas à pas. À chaque expulsion, si on doit recommencer une scolarisation, si on doit recommencer un parcours ultra compliqué, il faut déjà sortir propre d'un bidonville quand il pleut des cordes pour aller au collège et ne pas être remarqué. Donc, complexe, mais... Avec l'exemple de la Flambert, on voit sur des trajectoires de jeunes que ça marche.
Et la Flambert, ça marche aussi parce que c'est un lieu stable. Et c'est la stabilité d'un lieu de vie, ça fait beaucoup dans l'accompagnement social et l'accompagnement scolaire. Nous, on peut se remettre ça parce qu'on peut se projeter sur du moyen terme, parce qu'on sait que demain, il n'y a pas d'expulsion. Et on sait que c'est un luxe, entre guillemets, par rapport à d'autres structures ou à d'autres accompagnements, parce que la stabilité du lieu de vie fait que c'est possible.
C'est une des grandes conclusions aussi du rapport gouvernemental. La semaine prochaine, on se retrouve, Nathanaël, pour le dernier volet de cette belle émission. Là, cette fois-ci, on va attaquer de plein pied l'anti-tziganisme, puisqu'on a beau être constructif, positif et créatif, on ne peut pas passer à côté. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine. Merci encore.
Merci beaucoup.